Les sorties, on va commencer par le daim de Quentin Dupieux. Un homme acquiert un blouson en daim et décide, à partir de là, d'éliminer tous ceux qui portent un blouson. Au-delà de ce pitch descriptif de la folie, celle d'un homme normal, et finalement, celui qui en parle le mieux, eh ben, c'est Jean Dujardin.
J'ai eu les clés tout de suite, oui, du scénario. C'est-à-dire que il y a quelque chose, déjà, je ne voulais pas jouer. Je voulais dans une normalité très inquiétante. Parce que c'est plus inquiétant. Faire des choses incongrues quand on est très normal, c'est vraiment flippant que quelqu'un d'anormal qui fait quelque chose d'anormal, on est d'accord. Donc l'idée c'était de ne rien faire et de porter ce blouson comme si je portais une veste normale. En fait c'est surprendre, c'est ce que j'aime moi aussi hein, parfois dans la comédie, on a un peu l'habitude parfois d'avoir une comédie qui remplit un peu les trous, qui doit aller très vite, qui doit être à la fois sociétale mais ce fameux rythme où pour le coup le film devient un gâteau de riz au bout de 20 minutes, moi j'en peux plus, trop de blagues, trop de situations, trop de trucs. Et parfois les silences, les creux, l'arythmie, moi ça me fait beaucoup rire, mais de toute façon ce film est un fantasme. Hein.
Oui.
Qu'un film comme ça existe encore en 2019, je trouve ça vraiment très, très encourageant.
Voilà le daim de Quentin Dupieux. Contre ton cœur de Teresa Villaverde. Au Portugal, le quotidien d'une famille est bouleversé. Le père se retrouve au chômage et la mère doit alors cumuler deux emplois. Mais leur fille est bien décidée à ne pas se laisser abattre et à continuer à vivre sa vie d'adolescente. Tiens, il y a quelques petits échos avec les films dont on a parlé avant.
Mais oui, bien sûr, tout simplement parce que c'est effectivement l'histoire, une nouvelle histoire de cette crise économique qui fait que les familles elles-mêmes sont en crise parce qu'elles souffrent de cette crise économique évidemment. Le père, vous le disiez, est au chômage. Il finit quand même par faire les poubelles autour de lui pour manger. La mère supporte deux jobs pour faire vivre sa famille. Et effectivement, l'adolescente Martha, très très bien jouée d'ailleurs par une actrice qui s'appelle Alice Albergaria Borges, je tenais à la citer, eh bien cette adolescente essaye de s'en sortir. Il y a énormément de cinéma dans ce film, c'est ça qui le rend peut-être encore plus intéressant par rapport à ce sujet de départ. Je pense notamment au travelling final. Et puis il y a cet appartement qui est un autre personnage du film, d'une tristesse absolue et que Villaverde éclaire justement avec énormément de science cinématographique.
Buñuel après l'âge d'or, film d'animation de Salvador Simo. Ça, c'est la merveille de la semaine, du mois et plus encore. La renaissance d'un cinéaste Buñuel, surréaliste, après le scandale provoqué par son film L'âge d'or en 1930. Un ticket gagnant de loterie, acheté par son ami le sculpteur Ramon Acine, va changer le cours des choses et permettre au cinéaste de réaliser son film Terre sans pain. Ou comment un surréaliste affronte le réel tout en restant un surréaliste, touché par ses paysans très pauvres, en gardant quand même sa volonté de déranger. Un récit pas du tout hagiographique, sans complaisance, sur un artiste en pleine création. C'est poétique, c'est émouvant, c'est instructif, c'est un rêve de cinéphile, à la fois accessible à tous, et ça donne envie de voir ou revoir toute l'œuvre de Buñuel. J'ai eu la chance de le voir là où tout a commencé, au Studio 28 à Paris, et vous, Laurent, à la Cinémathèque qui présentait en préambule justement L'âge d'or.
Absolument.
Allez voir cette merveille, merveille.
Incontestablement.
Nathan, le fantôme de la rue Francoeur de Francis Gendron, portrait d'un des personnages les plus importants et controversés du cinéma d'avant-guerre, Bernard Nathan, en 29, il acquiert Pathé, la plus grande compagnie en France. Il construit un large réseau de salles de cinéma, produit plus de 65 longs-métrages, modernise les studios et les salles pour les adapter aux parlants. Il est attaqué sans répit par la presse française. Plusieurs de ses attaques sont d'ordre antisémite. Il devient le juif le plus haï de France.
Oui, c'est la presse d'extrême droite qui l'attaque. Évidemment, c'est très très suspect d'être à la fois juif et puis de réussir dans ce domaine du cinéma à la fois si populaire. Il a quand même produit une soixantaine de films, dont ceux de L'Herbier ou de Litvak. Donc c'est vraiment une très très belle filmographie. Et ce documentaire, enfin, rend hommage à cet homme. Il y a des photos notamment de son procès qui sont abominables parce qu'on sent l'antisémitisme permanent. Vichy lui a retiré sa nationalité française, l'a livré aux nazis, et c'est en 1942 qu'il est mort à Auschwitz. Donc c'est vraiment un destin incroyable, et il faut aller voir ce documentaire de Francis Gendron, qui avait déjà produit un autre documentaire sur Jean Zay, donc un peu la même période, ou totalement la même période, qui était tout aussi intéressant.
On va passer pas très peu de temps sur Nous Rêves, malheureusement réalisé par Ralph Fiennes. Une ode à la liberté d'expression, certes de bien beau ballet, sûrement un grand interprète, sans conteste, mais tellement académique dans sa mise en scène, brouillon dans son montage et lisse dans ses descriptions. Mais quelle déception sur ce grand danseur. Anna, un jour, c'est un premier film. Laurent, Anna, oui, à la quarantaine, trois enfants, un mari, un emploi et quelques soucis financiers. Elle passe son temps à courir entre travaille la maison et les enfants, mais finalement, qu'est-ce qui se passe avec ce sujet-là sur les nouveaux parents,
hommes
ou femmes débordées.
Oui, alors là, là, c'est vraiment du côté de la mère, ce qui est un peu absent dans d'autres films qu'on a évoqués, mais là, vraiment, elle est très, 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 très présente parce que elle se reçoit tout sur la tête et elle la charge. Alors là, elle est là sur ses pauvres épaules ou ses larges épaules puisqu'elle doit tout subir. Et ce qui est intéressant, c'est qu'au fond, justement, la cinéaste dont c'est le premier film, la cinéaste hongroise, en quelque sorte, à travers le film, elle lui rend une existence, une place à ce personnage féminin que tout le monde oublie ou que tout le monde instrumentalise. C'est ça qui est très beau dans ce film, c'est que à force de la suivre au plus près d'elle-même, eh bien la cinéaste lui rend un très très bel hommage.
Nevada, premier film de Laure de Clermont-Tonnerre. Incarcéré dans une prison, Roman n'a plus de contact avec l'extérieur ni avec sa fille. Pour tenter de sortir de son mutisme et de sa violence, on lui propose d'intégrer un programme de réhabilitation sociale grâce au dressage de chevaux sauvages. Voilà, tout est dit de ce film qui déploie son programme tel qu'on l'attend. Sans surprise, une brute va s'adoucir au contact des chevaux. Résistance, apprivoisement, embûche, la violence et les pressions d'un co-détenu, le tout dans des paysages sublimes, à la croisée du western et du film de prison, sans la flamboyance de l'un ou la tension de l'autre. Silence, c'est un film de 71 de Masahiro Shinoda qui n'était jamais sorti en France, Laurent,
oui.
Et dont, à mon avis, Scorsese s'est inspiré pour son film, complètement.
Oui, complètement.
C'est-à-dire l'histoire de ces deux prêtres portugais qui débarquent sur les côtes japonaises.
Oui, oui, c'est ça, c'est 45 ans,
non
pas
siècle.
Avant Jésus-Christ, mais avant Scorsese. Le film, effectivement, se déroule dans le Japon du 17e siècle. Et d'ailleurs, l'auteur du roman dont s'est tiré a co-adapté avec le metteur en scène japonais. Et ça donne un film qui est totalement à l'envers. Elle est inverse, heureusement, de celui de Scorsese. C'est-à-dire, c'est ni doloriste, ni lacrymal. C'est une très, très belle réflexion sur ce que c'est que la foi et la confrontation avec justement deux fois que beaucoup de choses opposent.
Ça s'appelle Silence.
Silence.
Et les monstres reprises, bien sûr, d'Ino Risi.
1960, 19 sketchs. Certes inégaux, mais à tomber de rire sur ce sont des affreux, des sales et des méchants.
Comme on va partir là en vacances, enfin pas vous Laurent parce que vous restez tous les matins à 10h, ciné qui chante tout l'été.
C'est vrai, on se donne rendez-vous en chanson.
Alors on va annoncer donc les sorties de cet été et on va commencer par Toy Story. Alors, on craignait l'essoufflement et le manque d'inspiration pour ce quatrième épisode de Toy Story. Cette merveilleuse idée des jouets qui parlent, c'est le quatrième épisode, le plus réussi de tous les quatrièmes épisodes de l'histoire du cinéma. Non seulement l'inspiration est toujours là, mais ils ont réussi à aborder au milieu des poursuites et du suspense des thèmes aussi importants que l'adoption, la liberté, l'amour, l'amitié, au travers de nouveaux personnages et de clins d'œil merveilleux au cinéma, notamment à Spielberg et à Kubrick, pour servir ce propos également très girl power, notamment à travers le rôle de la bergère, Audrey Fleurot, oui en français, parce que cette VF est extrêmement réussie. Moi je vous dis, ça va être un raz-de-marée au box-office, pas besoin d'être voyante pour le prévoir.
Ça sort quand ?
Ça sort le 26 juin. Tarantino, qu'on a écouté dans cette émission Once Upon a Time in Hollywood, son nouveau film sort le 14 août avec Leonardo DiCaprio et Brad Pitt. Grand film également. Le 21 août, il y a un problème, Laurent, il y a trop de films qui sortent.
oui, c'est vrai. Il y a notamment le film d'Arnaud Desplechin, on insistera beaucoup sur ce très très beau film de Cannes. C'est L'Oublié de Cannes, à notre avis, avec un Roche Dizem en majesté qui était extraordinaire. Il y aura aussi les films notamment de Guillaume Niclou qui sort à ce moment-là.
Dalasso.
Oui, Dalasso. Et le film de Ducastel et Martineau, Au Perché, qui revient au cinéma. Et pas, contrairement à ce qui a été annoncé, le film du merveilleux film russe Une Grande Fille qui sort le 8 août, celui un petit peu avant. Voilà, c'est une autre date. Mais alors là aussi, c'est un second film après Test Nota qui est remarquable.
Rétrospective Almodovar à partir d'hier. Alors on a choisi ce qu'on préférait. Alors moi j'ai choisi En chair et en os, un de mes préférés, La loi du désir ou Matador dans les premiers. Laurent, vous êtes plutôt Étreinte brisée.
Ah oui, Étreinte brisée à mort. Et puis Parle avec elle, merveilleux.
Et Tout sur ma mère, Evolver, ouais, enfin sûr, merveilleux, ouais. Cinéaste qui n'a pas eu la palme mais qui a eu un prix d'interprétation.
Voilà.
Et voilà. Cannes justement, au Luxor, bon, c'est à Paris, du 26 juin au 2 juillet, mais non, mais ça c'est sacrément bien, ils vont repasser le Ken Loach, donc Sorry We Missed You, J'ai perdu mon corps, ce merveilleux aussi film d'animation de Jérémy Clapin, Alice et le maire de Nicolas Parizer, également grand film, Bacurao, le film brésilien, Portrait de la jeune fille en feu, extraordinaire film
Céline
Sciamma, et Le traître de Marco, Bellocchio.
Autant de films qui ne sont pas encore sortis en salle, donc c'est l'occasion d'aller voir.
Sinon, Festival du film de Fès, 5e édition du 27 au 30 juin. Festival de La Rochelle, 47e édition du 28 juin au 7 juillet, notamment avec Dario Argento, et Elia Souleymane. Le Champs-Élysées Film Festival, sinon.